Il est évident qu'on ne peut essayer de parler d'un sujet comme celui des miracles sans devoir traiter celui du Saint-Esprit. Nous savons en effet qu'ils sont indissolubles, car le pouvoir de faire des miracles n'a été donné aux apôtres que par les vertus du baptême du Saint-Esprit. D'innombrables personnes pensent, conformément à ce qu'on leur a enseigné, qu'on ne devient réellement un chrétien à part entière qu'après avoir reçu ce fameux baptême. Il n'est pas rare non plus de rencontrer des gens qui croient sincèrement avoir été baptisés d'esprit avant leur conversion. Dans ce dernier cas, le baptême d'eau fait figure de parent pauvre et ne revêt plus qu'une importance toute secondaire et prend la simple valeur d'un témoignage à rendre à Dieu et aux hommes. Il semble qu'une grande confusion règne dans ce domaine. Cela ne fait qu'accroître encore davantage la perplexité de ceux qui cherchent sincèrement à faire la volonté de Dieu, mais qui se trouvent confrontés avec des théories souvent plus fantaisistes les unes que les autres. Qui croire? Chacun prétend détenir la seule vérité possible en ne se basant soi-disant que sur la Bible. Alors vraiment, à qui faut-il aller pour espérer recevoir une réponse satisfaisante? Je ne prétends nullement vouloir balayer tous les arguments avancés par l'un ou l'autre pour enfin établir la seule vérité. Non, absolument pas. Je ne vous propose qu'une chose, c'est de lire les Écritures ensemble, en laissant d'une part parler la logique, et d'autre part en n'essayant pas de leur faire dire autre chose que ce qu'elles proclament. Avant tout, essayons de répondre à une question très simple. Le baptême du Saint-Esprit est-il nécessaire au salut? Alors que Jean-Baptiste prêchait dans le désert pour annoncer la venue du Messie, il disait entre autres, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean s'adresse ici à un groupe de personnes qui appartiennent à deux genres différents. Les bons recevront le baptême du Saint-Esprit, tandis que les autres, c'est-à-dire les mauvais, la race de vipères, seront baptisés, immergés dans le feu. Cela s'explique d'ailleurs à la lueur du verset suivant qui dit en parlant du Messie à venir, « Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. » Ne parlons donc plus de ce baptême de feu qui n'était en fait qu'une métaphore. Dans le passage de Matthieu 3 que nous avons cité, il est bien évident que le baptême du Saint-Esprit est promis et non ordonné. Or, on ne peut obéir à une promesse comme s'il s'agissait d'un ordre. Cette promesse ne s'adressait d'ailleurs, comme nous venons de le voir, qu'à une certaine catégorie de personnes bien spécifiques. Le salut s'obtient par la foi, qui s'exprime par l'obéissance. Jésus le dit très bien en Matthieu 7 et verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. » Disons donc tout de suite que le baptême du Saint-Esprit ne représente pas une condition nécessaire à notre salut. Passons maintenant à une autre question. Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit au premier siècle? Personne ne niera la réalité du fait que dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons trace que du baptême de deux groupes de personnes qui sont d'une part les apôtres et d'autre part Corneille et ceux qui écoutaient, nous dit la Bible. Le cas du centenier revêtait une signification toute particulière qui fait sans conteste figure de véritable exception en la matière. Nous ne tenterons donc pas de prouver quoi que ce soit à partir d'un cas isolé ou singulier. Voyons toutefois le but de ce baptême que nous pouvons encore qualifier de spécial. Jusqu'au jour où a lieu cet événement, le salut n'est apparemment offert qu'aux seuls juifs, qui considèrent les gentils comme des êtres impurs et exclus du plan divin de rédemption. Ce point fait l'objet de nombreuses discussions au sein même des fidèles. On va jusqu'à reprocher aux apôtres de se mêler aux non-juifs. C'est le cas notamment de Pierre, à qui les chrétiens disent sur un ton de réprobation « Tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux !» Cet acte était inqualifiable aux yeux des juifs, pour qui cela représentait une véritable souillure. Mais Pierre explique sa conduite. Il raconte que tout d'abord, une nappe attachée par les quatre coins et contenant des animaux considérés jusque-là comme impurs lui est apparue par trois fois et que le Seigneur lui a dit « Tue et mange !» Puis,
les trois hommes envoyés par Corneille sont arrivés, et l'Esprit lui a dit de partir sans hésiter. Ensuite, continue Pierre, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, c'est-à-dire Corneille et les siens, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Ce baptême que nous avons qualifié il y a quelques instants de spécial a donc pour but de convaincre tous les assistants et les six hommes qui sont venus avec Pierre en particulier que Dieu accorde maintenant le salut à tous et non pas seulement aux Juifs convertis à Jésus. Le verset 18 de Actes 11 nous montre clairement que ce but est atteint. Car ceux qui venaient de faire des reproches à l'apôtre Pierre ont écouté ses explications, et après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Il ne reste donc plus à proprement parler que le baptême des apôtres à prendre en considération. Nous venons de voir le but voulu et atteint par Dieu dans celui du centenier et des siens. Examinons maintenant le dessein divin dans le cas des apôtres. Avant de mourir sur la croix, le Fils de Dieu avait annoncé aux 12 réunis, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le premier but est donc de remplacer la présence et la direction personnelle de Christ auprès des apôtres. Je dis bien des apôtres et personne d'autre, car cette promesse s'adresse à eux seuls. C'est encore aux apôtres que Jésus s'adresse en disant, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Nous savons par le Nouveau Testament, et notamment par ce passage, que les apôtres, avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ne sont pas à même de comprendre toute la doctrine de Christ. Ils n'ont pas encore la force de résister aux énormes pressions qu'ils vont devoir subir. À la mort de Jésus, nous le voyons d'ailleurs tous fuir. Le deuxième but de ce baptême est donc de guider les apôtres dans toute la vérité. Et je dis toujours les apôtres. Dans le passage que nous venons de lire, Jésus avait dit « L'Esprit Saint vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il s'agit donc de leur prédire le futur et de permettre aux apôtres de le faire à leur tour. Nous les voyons d'ailleurs plus tard jouir de cette faculté et annoncer l'apostasie, la seconde venue de Christ, la résurrection, les luttes et les triomphes de l'Église. Voilà donc le troisième but, toujours, et j'insiste, exclusivement destiné aux apôtres. Mais ils doivent également être à même de pouvoir convaincre le monde de son état de péché, de prêcher avec puissance la justice de Dieu et son jugement à venir. Christ promet aux apôtres au sujet du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Nous voyons les apôtres convaincre 3000 personnes le jour de la Pentecôte qui suit le départ du Maître, et ensuite parcourir le monde, muni de cette puissance énorme que leur a donné le Saint-Esprit le jour où il est descendu sur eux en les baptisant. Voilà donc le quatrième but. En Jean, chapitre 15, versets 26 et 27, le Seigneur leur avait dit également, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. » Cette promesse s'adresse encore une fois uniquement aux apôtres, car seuls ceux qui ont vu et entendu Jésus-Christ pouvaient témoigner de lui. Et c'est logique. Paul le déclare d'ailleurs bien haut en Galates chapitre 1, versets 11 et 12. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Nous en sommes arrivés au cinquième but du baptême du Saint-Esprit, qui est de permettre aux douze de raconter de manière absolument persuasive ce qu'ils ont vu et entendu en ce qui concerne le Christ. Nous savons d'autre part, par Hébreux chapitre 2, versets 2 et 4, que ces témoins ont appuyé leur témoignage en faisant des miracles. Or, les miracles n'ont pu être accomplis qu'uniquement grâce au baptême du Saint-Esprit, qui lui n'a été accordé qu'aux seuls témoins, c'est-à-dire aux apôtres. Les différents buts du baptême du Saint-Esprit montrent qu'il était uniquement destiné aux apôtres. D'ailleurs, nous ne voyons pas trace, et je le répète, dans le Nouveau Testament, d'aucune autre personne l'ayant reçu à part Corneille et ceux qui écoutaient. Mais là encore, il nous faut admettre que ce baptême était d'une part une exception et d'autre part que son but était nettement spécifique et n'existait absolument plus de nos jours. Nous avons vu ensemble ce qu'il représentait véritablement au premier siècle. Nous avons ensuite passé en revue les différents buts que Dieu poursuivait en accordant cette puissance à Jésus, aux apôtres et à certaines autres personnes, pour enfin traiter du baptême du Saint-Esprit. Tout cela nous amène tout naturellement à nous demander si le chrétien du XXe siècle doit encore s'attendre à voir ces choses fantastiques, s'il doit lui aussi aspirer à être baptisé du Saint-Esprit, et si les apôtres ont, comme certains le prétendent, transmis leur pouvoir surnaturel à la postérité. Il faut avant tout remarquer que, tout d'abord, seuls les apôtres étaient dans l'église de Jérusalem capables de faire des miracles. Le livre des Actes montre clairement ce fait. Dans le chapitre 2, il est dit qu'après la première prédication de l'Évangile, le jour de la Pentecôte, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le même livre des Actes montre dans le chapitre 5 que beaucoup de miracles et de prodiges se faisait au milieu du peuple par la main des apôtres. Cependant, un peu plus tard, les disciples de Jésus se mettent à transmettre leur pouvoir à d'autres, car la nécessité s'en fait sentir. C'est le cas, par exemple, des sept diacres dont les noms sont stipulés en Actes chapitre 6 et verset 5 et qui furent présentés par l'assemblée aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous voyons donc d'une manière très clair que ces dons se sont bien transmis, et d'autre part, que c'est par l'imposition des mains des apôtres que cela se fait. La Bible stipule d'ailleurs, dans au moins deux cas, que cette transmission est pleinement effective. Voyons tout d'abord le cas du premier d'entre ces sept diacres, dont il est dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple ». Ensuite vient l'exemple d'un autre diacre, dont parle toujours le livre des Actes. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Mais permettez-moi de revenir encore une fois pendant quelques courts instants sur un des buts principaux de ces dons spirituels. Et lisons encore deux versets du 8e chapitre des Actes. Quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles qui s'opéraient. Ce but est ici, une fois de plus, démontré, c'est-à-dire qu'il est fait pour confirmer la parole, prouver qu'il parle bien au nom de Dieu. Mais revenons à ces diacres qui viennent de convertir beaucoup de gens en Samarie. Pour pouvoir accomplir ce ministère fructueux, ils ont reçu par imposition des mains le don d'accomplir des miracles. Vont-ils à leur tour les transmettre à d'autres, maintenant qu'ils doivent poursuivre ailleurs leur travail de prédication? Absolument pas. La preuve en est que le Nouveau Testament dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, c'est-à-dire deux apôtres. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Comment se fait-il que ceux qui leur avaient prêché l'Évangile et les avaient convertis ne leur aient pas imposé les mains pour leur transmettre à leur tour ces dons spirituels attribués grâce aux apôtres? Tout simplement parce qu'ils en sont totalement incapables. C'est la raison pour laquelle Pierre et Jean sont obligés de se déplacer depuis Jérusalem pour venir leur imposer les mains. Timothée a reçu au moins un don spirituel par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Le voit-on partager ce don avec d'autres chrétiens? Non, car il ne le peut pas. Les 12 convertis d'Éphèse, à qui Paul a également imposé les mains, qui parlent en langue et prophétisent, transmettent-ils leur don? Apparemment non, car le livre des Actes n'en souffle non. Pourquoi? Parce qu'ils en sont également incapables. Et les Samaritains dont nous avons parlé il y a quelques instants? Et ceux à qui s'adresse Paul en Romains chapitre 1 et verset 11? Silence total de la part des Écritures. Ces dons spirituels sont d'ailleurs tout temporaires et vont disparaître dès que la rédaction du Nouveau Testament sera achevée. L'apôtre Paul le dit sans embâge. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'apôtre ne dit pas « quand celui qui est parfait sera venu », non, il dit bien « quand ce qui est parfait sera venu ». Il s'agit donc bien du Nouveau Testament tout entier. Jacques le dit également « mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ». Paul exhorte les chrétiens du premier siècle et leur dit également « Aspirez aux dons les meilleurs !» Mais il ajoute « Je vais encore vous montrer une voie par excellence !» Et c'est l'amour qui ne périt jamais. Il compare cette époque de dons spirituels de l'Église à sa propre enfance. Puis, le temps où la loi est complètement donnée à l'état adulte. Et continue en ces termes « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Cela revient à dire que la possession de la complète volonté de Dieu est de loin préférable à tout le reste. Il ajoute d'ailleurs encore, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Il ne s'agit nullement d'une allusion au ciel, mais bien d'une époque qui se situe sur terre. Les dons spirituels doivent être en quelque sorte comparés à l'échafaudage qui monte à fur et à mesure qu'un bâtiment s'érige et qui est ensuite retiré, dès que l'ouvrage est bien solide. Il faut également penser aux remorqueurs qui tirent le navire hors du port et le laissent dès que la haute mer lui permet de naviguer par ses propres moyens. L'Église primitive a été établie en partie grâce à ses dons spirituels, qui temporairement lui ont servi d'échafaudage ou de remorqueur. Mais dès que les hommes inspirés de Dieu ont fini d'écrire le Nouveau Testament, c'est lui à qui il appartient de guider les hommes vers la grâce de Dieu et le salut. L'Église que Christ a fondée n'a plus besoin des miracles pour s'ériger ou pour prendre son essor. Non, car il s'agissait là de choses temporaires. Les dons spirituels étaient accordés grâce à une puissance miraculeuse. Pourquoi ne sont-ils donc plus accordés de nos jours? Premièrement, parce qu'il n'existe plus d'apôtres pour les transmettre. Et nous avons vu dans l'Église primitive qu'un seul pouvait le faire. Ils étaient inspirés de Dieu. Et grâce à cette inspiration, connaissaient la vérité tout entière. Ils avaient vu et entendu Jésus. Deuxièmement, parce que ces hommes inspirés ont révélé toute la vérité nécessaire à l'homme pour le rendre parfait aux yeux de Dieu, et que par conséquent, il n'est nul besoin d'autres révélations miraculeuses. Ce qu'ils ont écrit dans le Nouveau Testament fournit à l'être humain absolument tout ce que Dieu lui destine comme instruction, afin de le justifier à ses yeux. L'homme peut maintenant apprendre toute la vérité dont il a besoin pour son confort présent et éternel, en prenant connaissance de sa volonté exprimée dans la Bible. Dieu ne fait plus de miracles pour se révéler à lui, car ce n'est plus nécessaire. Nous savons donc maintenant que la révélation de Dieu à notre égard est complète et que nous n'avons nul besoin de miracles pour nous pousser à croire. Jésus avait promis à ses apôtres, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette prescription a été remplie. Les apôtres nous ont enseigné tout ce que l'Esprit leur a inspiré. N'y revenons donc plus. La parole de Dieu nous dit maintenant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi nous est donnée parce que nous entendons dans la parole et non pas à cause des miracles qui feraient appel à notre vue. L'apôtre Paul dit maintenant à tous les chrétiens, en parlant de Dieu, il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc l'évangile qui nous appelle et qui nous donne la gloire de Christ, rien d'autre. On est en droit de se demander, mais en quoi consistaient exactement ces fameux dons spirituels? Il s'agissait en gros de pouvoir chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de les interpréter, de saisir des serpents et de boire des breuvages mortels sans en être incommodé, de guérir des malades par imposition des mains, de prophétiser, de faire des miracles, et enfin de pouvoir discerner les esprits. De nos jours, on prétend que certains de ces dons existent toujours. Mais où le bât blesse, c'est que toutes ces manifestations de l'Esprit-Saint ne se rencontrent plus. Or, tous les dons comprenaient la révélation et la confirmation de la vérité. Ils devraient toujours servir les mêmes buts et produire les mêmes résultats qu'au premier siècle. Si les dons spirituels existent encore, alors il faut les avoir tous, et non pas seulement quelques-uns d'entre eux. On a souvent tendance à confondre baptême du Saint-Esprit et don du Saint-Esprit. Nous avons vu que ce baptême particulier avait été promis aux apôtres et qu'il n'existe plus. Je n'en veux pour preuve supplémentaire que le passage de la Bible où Paul dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Le don du Saint-Esprit est quant à lui destiné à tous ceux qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont cru, qui se sont repentis, qui ont confessé leur foi et qui ont été baptisés d'eau. En Actes chapitre 2 et verset 38, Pierre dit à une foule immense à Jérusalem, « Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit habite dans le cœur de ceux qui par leur obéissance sont devenus chrétiens. L'auteur des Actes parle d'ailleurs de l'Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et Paul affirme aux chrétiens de Corinthe, « L'Esprit de Dieu habite en vous. » Le but de ce don, qui, je le répète, n'a rien de commun avec le baptême du Saint-Esprit, est de rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous sceller comme gage de notre héritage, nous aider dans notre faiblesse et intercéder pour nous aider à porter des fruits grâce à sa puissance. Il n'y a dans tout cela rien d'extraordinaire ni de fantasmagorique. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans chaque chrétien, mais ne lui permet pas de faire des miracles et des prodiges. Pourquoi faire? L'amour de Dieu ne surpasse-t-il pas toutes choses ?